Merci, France. Moi, je m'appelle Hubal, je suis un alcoolique. Aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère de mieux en mieux de jour en jour. Si vous voulez bien, j'aimerais ça commencer le meeting avec un moment de silence. Puis durant ce moment de silence-là, j'aimerais ça qu'on ait une pensée pour les personnes qui voudraient être ici aujourd'hui puis qui ne peuvent pas. Puis avoir une autre pensée après ça pour les personnes qui devraient être ici puis qui ne le veulent pas. Donc, un moment de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde parce que moi, pendant 30 ans de temps, j'ai essayé tout seul et ça n'a pas marché. Puis les dernières 30 années, avec vous autres, ça marche. Je vous remercie d'être là pour moi. J'ai besoin de vous autres, puis laissez-moi pas, j'ai besoin de vous autres. Comme d'habitude, on va faire une petite révision de ce qu'on a fait jusqu'à date. Au début, on a parlé de l'avant-début, avant-or, qu'est-ce qui s'est passé. C'est Carl Jung, un psychiatre de l'Autriche, qui est Roland Hazard qui était rencontré pour comprendre la maladie. En même temps, à New York, il y avait le docteur Silkworth qui parlait à Bill et expliquait la maladie. Les deux avaient un ami en commun, c'était Abby Thatcher. Et puis, Roland Hazard est devenu sobre. Il a aidé Abby Thatcher à devenir sobre. Abby est un grand chum à Bill aussi. Puis, Abby a été donné le mot de passe à Bill qui était Dieu de sa compréhension. Qui a fait tout le changement drastique qu'on a depuis 1935. Des millions de personnes peuvent s'en sortir aujourd'hui. Au moins, on a le choix. Avant ça, il n'y avait pas le choix. Il y avait aucune. C'est pour ça qu'on appelle ça une maladie chronique, parce que la science n'a aucun effet là-dessus. La science ne peut pas guérir un alcoolique chronique. Elle ne pouvait pas en 1935, puis elle ne peut pas plus en 2020. Ça fait que notre début, c'est ça. Puis après ça, on a parlé de l'histoire du gros livre, où ça devient l'histoire du gros livre-là. Mais ils se sont mis quand, au début, dans les premiers 3 ans, Bill et Bob parlaient puis essayaient de faire comprendre le mode de vie aux personnes, mais ils se sont aperçus que de bouche à oreille, ça se perdait ce mode de vie-là. Fait qu'ils ont décidé d'écrire un livre. Ils ont écrit un livre avec l'aide des 100 premières personnes. Au début, peut-être qu'il y avait peut-être 20, 25, 30 personnes, puis plus que le groupe grossissait, mais plus qu'il y avait de monde pour dire leurs opinions, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres, comment est-ce qu'ils ont fait pour se rétablir à travers ça a commencé avec le groupe d'Oxford et les 6 principes oraux du groupe Oxford. Bill a fait 12 étapes avec ça, puis il nous a expliqué ça dans le gros livre. Et puis, mais le gros livre, il est dur à comprendre, pas tout le monde peut le comprendre, dès qu'il dit qu'ils ne comprennent pas, mais c'est pour ça ça a commencé dans les années 1973, Joe et Charlie se sont rencontrés. C'est les premiers qui ont commencé des études de gros livres. Ils ont propagé ça à travers du monde. Ils sont venus à Montréal même. Moi, je l'ai appris d'un type qui s'appelait Cowboy Ray, lui, il allait écouter des études de gros livres de Joe et Charlie. Et depuis 1973, ça existe. En 1977, ça a commencé à faire boule de neige. Et puis, comme je dis, moi, je n'ai pas rencontré Joe et Charlie, j'ai rencontré Cowboy Ray. Qui avait été un des principaux personnes dans l'entente. Après ça, on vous a parlé, on a commencé dans l'opinion du gros livre. Dans le gros livre, il y a 12 chapitres. Il y a 11 chapitres à part de l'opinion du médecin. Mais dans la première édition du gros livre, l'opinion du médecin faisait partie du premier chapitre. Puis après ça, bien, on pensait peut-être que ce n'était pas correct parce que le médecin n'était pas un alcoolique lui-même. Fait que les 11 autres chapitres, ils traitent les personnes qui sont alcooliques. Dans l'opinion du médecin, le docteur n'était pas alcoolique. Fait qu'ils ont mis ça en chef romain comme les avant-propos puis tout ça. Fait que le docteur, lui, nous a expliqué, il a expliqué l'allergie. Il a expliqué ça à Bill. On était allergique à l'alcool. Si on prend un verre d'alcool, on peut plus arrêter à cause d'une allergie qui développe un goût immodéré de boire. Puis quand on ne boit pas, quand on n'est pas en boisson, bien, on a une obsession. Notre tête, elle nous dit que ça ne fera pas ce que les 100 autres fois fait. À soir, ça va être correct. Je peux prendre un verre, puis ça ne fera pas ce que ça a toujours fait. On appelle ça une obsession. C'est de répéter les mêmes fautes tout le temps, puis espérer des résultats différents. C'est perdre le contrôle de notre vie. C'est par une obsession d'aller boire qui est plus forte que tout ce qu'il y a au monde. Il y a encore aujourd'hui, il n'y a aucune autre façon de s'en sortir que de découvrir un être suprême qui va nous aider à passer à travers de ça. Mais le médecin, c'est ça qu'il nous a dit, que le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire le changement psychique essentiel, qu'un médecin reconnaisse sa propre impuissance. Le docteur Silkworth Puis le docteur Young a dit la même chose. Il dit, on essaye, avec des gens comme vous autres, on ne peut pas donner ce mouvement spirituel-là. Puis c'est pour ça qu'ils ont commencé avec le groupe d'Oxford. Puis après ça, bien, Bill, il voulait toujours aider les alcooliques. Puis le groupe d'Oxford n'était pas trop fort pour les alcooliques aujourd'hui. Fait que Bill a commencé le mouvement des alcooliques anonymes de lui-même après ça. Après ça, on va raconter l'histoire de Bill. Le but de l'histoire de Bill, c'est de trouver les ressemblances et non les différences qu'on a avec lui. Allez voir les ressemblances qu'on peut avoir. Bill, il est né à East Dorset, dans le Vermont. Et puis, à l'âge de 11 ans, ses parents se sont séparés. Et puis, à l'âge de 22 ans, il est allé à la guerre. Il était à peu près un an là, il est revenu. Puis, il a commencé à jouer à la bourse, travailler pour la bourse. Puis, il a fait de bon argent. Jusqu'en 1929, là, le crash boursier est arrivé, puis il a tout perdu, puis il buvait déjà beaucoup, puis il a continué à boire, puis aller jusqu'en 1934, quand il a compris ce que le docteur Silkworth qui expliquait, puis là, il a arrêté de boire, puis il a commencé le mouvement des alcooliques anonymes avec le docteur Bob. Après ça, on est allé voir le chapitre 3, autres données sur l'alcoolisme. On a sauté le chapitre 2 parce que le chapitre 2 nous parle de la solution, mais on n'est pas encore sûr de la maladie. Fait que c'est pour ça qu'on va au chapitre 3 avant d'aller au chapitre 2, qui nous donne d'autres données sur l'alcoolisme. On va essayer de nous faire comprendre un peu mieux l'obsession. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Ils nous disent que la grande obsession de tout alcoolique, c'est qu'un jour, je ne sais pas trop comment, mais il va parvenir à contrôler sa consommation. Puis c'est une illusion, puis dit cette illusion-là, il faut se débarrasser de ça. On ne peut pas caresser cette idée-là qu'un jour on va être capable de boire. Il nous raconte des histoires d'un gars que Jim, il n'avait pas bu, un type qui buvait trop, puis il a décidé d'arrêter de boire. Et puis, c'est sûr qu'il a rencontré Léa parce qu'il nous raconte cette histoire-là. Puis il a décidé d'arrêter de boire de lui-même. Il était 25 ans sans pas boire. À 55 ans, il a recommencé à boire, puis il est mort en dedans de 4 ans. Parce qu'il n'a pas écouté ce que c'est qu'on lui avait dit, c'est sûr, parce que son histoire est là. Après ça, on nous parle d'un homme qui a arrêté. Il nous parle de Jim, que lui, il n'a pas bu avant 35 ans, Jim. Jim, c'était un alcoolique. Il n'a pas bu avant 35 ans. Il avait un dealership. Il a perdu son dealership. Il a perdu tout ce qu'il avait dans la vie. Et puis, il ne pouvait pas arrêter de boire parce qu'il n'a pas enrichi sa vie spirituelle. Il a compris les hôtes, allé le visiter. Ils ont expliqué, mais il ne présentait pas que c'était pour lui. Puis, il a retourné boire. Après ça, il nous parle du comptable Fred. Fred, tout allait bien dans sa vie. Il a rencontré A, il a une méchante brasse. Il a rencontré A, ils ont raconté qu'il s'était. Il a pensé que c'était pas pour lui parce que ça y avait pas arrivé avant. Puis finalement, ça y est arrivé une deuxième fois. Et puis, il est revenu à A, puis on est venu raconter son histoire. Puis il a compris que ce que A, il avait dit, que c'est un tempérament d'alcoolique. Un jour ou l'autre, si tu n'enrichis pas ta vie spirituelle, un jour ou l'autre, tu vas retourner boire. C'est ça qu'il a fait, puis après ça, il a suivi le mode de vie, puis il nous dit qu'il ne changera pas sa vie aujourd'hui. Les pires journées de sa vie d'aujourd'hui pour une des meilleures journées de sa vie d'autrefois, parce que il a connu la quatrième dimension de l'existence que Bill nous parle, je pense que c'est à la page 9 du gros livre, qu'on a une qualité de vie qui ne pouvait pas exister quand on buvait. Ça n'a pas d'importance comment on buvait ou comment peu qu'on buvait. Cette qualité de vie-là n'était pas là. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu... Ce qu'on vous a décrit là, quelqu'un me parlait tout à l'heure, on va-tu faire les étapes, comment on fait les étapes, mais ce qu'on a décrit jusqu'à date, là, ça devrait vous faire comprendre la première étape. Puis la deuxième étape, on va en parler plus dans solution, puis après ça, dans autres données sur l'alcoolisme. Ça nous fait comprendre l'obsession. Fait qu'on va aller avec une solution à page 20 dans notre gros livre. On est là, page 20 en chiffre arabe. Il y a une solution, chapitre 2. Chez les AA, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui ont connu un jour le même désespoir que Bill. Presque tous se sont rétablis et ont trouvé une solution à leur problème. Avant 1935, ils n'avaient pas de solution. Aujourd'hui, tout le monde peut se rétablir. Puis c'est pour ça que c'est important que quand on comprend le gros livre, de le donner à nos amis, à nos familles, pour qu'eux autres, ils expliquent, qu'ils comprennent notre maladie. Tu sais, c'est pas un déshonneur d'être alcoolique. C'est pas de notre faute. C'est comme si moi, j'avais honte d'avoir le cancer. Si j'ai le cancer, c'est pas de ma faute. Je suis un alcoolique, c'est pas de ma faute. Mais après que je le sais, le rétablissement dépend de moi, par exemple. À partir du jour que j'ai découvert que je suis un alcoolique, le rétablissement dépend de moi, pas de personne d'autre. Nous sommes des Américains moyens. Toutes les régions de ce pays, plusieurs métiers et professions sont représentés, de même que dans plusieurs milieux, dont les milieux politiques, économiques, sociaux et religieux. Nous sommes des gens qui, normalement, ne se fréquentons pas. C'est tout le monde qui essaie d'asseoir, là, il y a des grosses chances, c'est pas du monde qu'on on serait des amis intimes. Mais on a tous un problème en commun, on veut tous savoir la solution. On veut connaître comment se débarrasser de ça, devenir joyeux, heureux et libre, sans consommer, quelle que soit notre obsession. Il y a peut-être 100, 200 sortes d'obsessions. Ici, on parle d'alcoolisme, mais on peut se débarrasser de n'importe quelle obsession en faisant ce qui est écrit en gros livre. Puis, quand c'est écrit le mot alcool ou alcoolisme, on le remplace par notre obsession la plus grande. Cependant, il règne parmi nous un esprit d'appartenance, une amitié et une compréhension merveilleuse, difficile à décrire. Je ne sais pas vous autres, mais moi, lundi soir, j'ai hâte que l'écran rouvre, j'ai hâte de vous voir là, j'ai hâte de vous sentir là, j'ai hâte d'être capable de m'exprimer et espérer que quelqu'un va comprendre un peu mieux après la session qu'il comprenait avant. Nous sommes comme les passagers d'un paquebot immédiatement après avoir été sauvés du naufrage, alors que de la troisième classe à la classe à la tête du capitaine, il règne un esprit de camaraderie, de joie, de démocratie. Il nous parle que quand le Titanic a sauté, tout le monde qui a pu sauver sont mis sur la plage, puis c'était plus important si tu venais du début ou de la fin, de la table du capitaine ou de la troisième classe. Tout le monde se donnait la main, tout le monde se donnait des éteintes, était tellement content. Puis après ça, ils vont nous dire, après ça, ils se sont dissipés, puis personne ne s'est revu. Nous autres, c'est la même chose. Mais on a ce don-là de se réunir dans des réunions pour être de plus en plus proches l'un de l'autre. Contrairement aux émotions du rescapé du navire, notre joie d'avoir évité une catastrophe s'éteint pas toutefois après que chacun a repris sa route. Le jour qu'on a compris qu'on avait une maladie physique et mentale, maladie chronique, bien, au lieu de s'éloigner, on se rapproche des autres pour essayer de trouver la solution, pour être capable de s'en sortir nous autres mêmes. Le sentiment d'avoir traversé la même épreuve est un des éléments du lien des plus puissants qui nous unit. Quand vous venez d'une salle d'alcoolique anonyme, vous venez écouter quelqu'un qui parle d'alcoolisme, d'un rétablissement, bien vous savez qu'il parle de vous, il parle de la même chose, même langage que vous parlez. Bien, lui seul, ce sentiment ne serait pas rapproché les uns les autres comme nous sommes maintenant. Ce qui est extraordinaire pour chacun de nous, c'est que nous avons découvert une solution commune. Nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument d'accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse. C'est la grande nouvelle que ce livre annonce à ceux qui souffrent d'alcoolisme. Les 100 premiers membres se sont mis ensemble. Ils n'étaient pas tous d'accord, mais ils en ont venu un accord. Comment qu'on va écrire ça pour que la majorité du monde puisse comprendre qu'est-ce qu'on a passé à travers et comment qu'on a passé à travers? Fait que c'est ça qu'une façon de s'en sortir sur laquelle les 100 premiers membres ont agréé puis ont dit oui, si tout le monde fait ça, c'est certain qu'ils peuvent s'en sortir. C'est ça la grande nouvelle qui est décrite dans ce livre-là. Une maladie de ce genre, nous en sommes venus tenir l'alcoolisme pour une maladie. C'est une maladie, puis une maladie chronique. Okay? C'est une maladie, donc c'est pas de ma faute si j'attrape la maladie. Affecte notre entourage comme aucune autre maladie peut le faire. Un malade atteint de cancer attire la sympathie de tous. Mais personne d'autre n'en est irrité ou blessé. Il n'en est pas ici de l'alcoolisme car cette maladie entraîne l'anéantissement de tout ce qui compte dans la vie. Elle affecte tous ceux qui entretiennent des relations avec la personne atteinte. C'est une source de mésentente, de ressentiment féroce. L'alcoolisme est une cause d'insécurité financière, dégoûte employeurs et amis, compromet le bonheur d'enfants innocents et de conjoints, de parents, sème la tristesse dans les familles. On pourrait allonger la liste. Les alcooliques, ils détruisent tout sur leur passage. Ça n'a pas d'importance lequel alcoolique. C'est un alcoolique actif comme moi j'étais, il peut sauter sur les tables, ou l'autre alcoolique qui est tout seul dans son coin, il borde un paquet de monde. Puis ils nous disent, ils nous comparent un peu comme les patients d'un cancer. Tu sais, s'il y avait un livre qui serait émis, qu'on dirait les 100 premières pages de ce livre-là, si vous avez un cancer, là, quel que soit votre cancer, si vous mettez en pratique les 100 premières pages de ce livre-là, plus l'opinion du médecin, bien, c'est garanti que vous ne mourrez pas de ce cancer-là. On bustera les portes de Zoom. Il n'y aura pas de Zoom assez gros pour que tout le monde veuille comprendre ça et veuille entendre ça. Mais aujourd'hui, on parle d'alcoolisme, une maladie chronique qui n'a aucun remède pour ça. On a trouvé une solution puis on a de la misère à ramasser 20, 30, 40, 50 personnes pour venir comprendre la solution et l'amener à un autre. C'est terrible quand on se rend compte de ça. Nous espérons que notre livre enseignera et réconfortera ceux qui ont et qui pourraient être atteints de ce mal. Il y en a beaucoup. Puis il y en a peut-être qui ne savent pas. C'est pour ça qu'on fait des études chroniques, pour que vous compreniez assez pour aller le dire à un autre. Peut-être un de vos amis, de vos parents peut-être qui sont alcooliques ou qui ne savent pas. On les lit le gros livre avec eux autres, ils lui font comprendre c'est quoi la maladie d'alcoolisme. Puis c'est pas de leur faute. Quand on lui dit ça, mais les nouveaux, je les vois et je lui dis, c'est pas de ta faute, c'est ça. Ils me regardent et ils sont pas sûrs. Oui, c'est vrai, on a une maladie, puis c'est pas de ma faute. Comme le cancer, c'est pas de ma faute. Mais nous autres, on a une façon de s'en sortir. On peut s'en sortir depuis 1935. Des psychiatres très compétents qui ont été en contact avec nous n'ont pas réussi à convaincre un alcoolique de discuter de son cas sans réserve. Allez voir des psychiatres, allez voir des docteurs. Bon, ils n'ont pas dit la vérité. Ils disent, comment tu bois? Ben, je bois comme tout le monde. Mais j'ai oublié de dire que je me tiens avec du monde qui font rien que ça boire. Fait qu'on n'a pas donné leur juste. Chose étrange, nos femmes, nos parents, nos amis intimes trouvent généralement encore plus difficile d'établir un contact avec nous autres. Ma famille proche, mes parents, mes amis me disent, Val, pourquoi tu n'arrêtes pas après que tu n'as pris deux, trois? Il me semble qu'il y a de quoi qui ne va pas bien. Je ne pouvais pas le répondre, je ne le savais pas. Et là, on a une réponse. C'est écrit en caractère là, donc là, ça veut dire que c'est très important. En revanche, l'ex-buveur qui a trouvé notre solution. C'est quoi notre solution? C'est le programme des alcooliques anonymes, notre programme d'action. Et qui connaît bien les faits en ce qui le concerne. C'est quoi les faits en ce qui le concerne? Bien, je sais que je suis un alcoolique. C'est quoi un alcoolique? Bien, j'ai une maladie, j'ai une allergie à l'alcool qui fait que je ne peux pas boire. Puis quand je ne bois pas, j'ai une obsession qui me dit que je peux aller boire. Bien, c'est ça, les faits en ce qui me concerne. Bien, avec mon programme d'action puis les faits en ce qui me concerne, un alcoolique peut généralement gagner l'entière confiance d'un alcoolique en quelques heures. Pourtant, des psychiatres n'ont pas été capables, des familles n'ont pas été capables, des enfants, les docteurs, il n'y a pas personne qui a été capable. Puis on, nous autres, on peut expliquer ça à un autre alcoolique, puis en quelques heures, on peut lui faire comprendre. Puis là, la phrase qui dit, c'est une des plus importantes du gros livre. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, les compréhensions mutuelles, ça dure. Si moi, je ne suis pas capable d'expliquer ça à quelqu'un assez bien pour lui faire comprendre la maladie, bien, ça veut dire que je ne l'ai pas compris comme il faut. Je ne suis pas capable d'exprimer comme il faut. C'est ça qu'il dit. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, tant que je ne le sais pas assez pour être capable de l'expliquer, bien, il n'y a rien ou presque rien qui va être accompli. Si moi, je ne peux pas l'expliquer à la maladie, ça veut dire que je ne suis pas capable de la maîtriser. Puis si je peux, puis l'autre que je vais, à qui je vais en discuter, bien, ça va être encore pire. Fait qu'il n'y a rien ou presque rien qui va se passer. C'est pour ça que c'est important qu'on fasse des études de gros livre. Mon parrain me dit tout le temps, Hubal, il faut que tu fasses au moins une étude de gros livre, puis si tu peux, deux par année. Dans l'Ouest, c'est à courant. Fait que j'en faisais deux, puis des fois trois par année des études de gros livre. Puis c'est donné là-bas, dans tous les groupes font au moins une fois par année, ils font une étude de gros livre séparément de leur groupe. Ils font ça 13 semaines de fil, une étude du gros livre. C'est courant. Tu vas à Calgary, tu vends jusqu'à une étude de gros livre. Ah, va à telle place, il va en après-midi, il y en a là, samedi matin, il y en a un autre là. C'est courant. Tu n'as pas moins de courir après, c'est là. Hein? Puis c'est pour ça, pour comprendre la maladie, tant qu'on n'a pas compris assez pour l'expliquer à un autre, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans moi. J'entends du monde, des fois, qui ont 20 ans dehors, puis ils disent, ah, ben, je ne trouve pas si pire que ça, je n'ai pas bu pendant 20 ans. Mais tu n'es pas rétabli. C'est juste que tu es un alcoolique, mais tu n'es pas dans le rétablissement. Le fait d'être abordé par une personne qui a déjà rencontré la même difficulté, d'entendre cette personne parler indéniablement de ce qu'elle connaît, de voir dans son comportement même qu'elle détient la vraie réponse, de constater qu'elle ne se pose pas en être moralement supérieure, puis qu'elle est mue par le désir sincère d'être. Le fait aussi qu'il n'y a aucun frais à payer, personne à flatter, aucune remontrance à subir. Voilà les circonstances, voilà les conditions que nous avons trouvées les plus efficaces. C'est quoi ces conditions-là? Bien, c'est ce qu'on vient juste de lire. Hein? Parler indéniablement de connaître, voir dans son comportement même. Si moi, je ne me comporte pas comme je suis posé, ça veut dire que mes étapes ne sont pas correctes. Si vous voyez aller du Hubal, ça ne marche pas ton affaire. Tu parles bien, mais tu ne marches pas bien. Il faut que mes babines, je faut que mes bottines suivent mes babines, comme on dit. Puis si ce n'est pas ça, bien, mes étapes ne sont pas faites comme il faut. Puis il faut les faire. C'est aussi simple que ça. C'est de connaître son comportement même qui détient la réponse, de constater qu'il ne se pose pas en être moralement supérieur. J'espère que vous ne me voyez pas ou que je ne me montre pas comme un être supérieur à vous autres. Je suis égal à toutes vous autres. Il y a une de mes filleules qui a rechuté un matin, qui m'a appelé encore 7h30, puis il dit, tu m'en veux-tu? Je dis, je t'en veux pas, c'est ça que la maladie fait, mais tu peux t'en sortir. Tu peux t'en foutre, tu demandes à ton être suprême, puis tu peux t'en sortir. On a une solution aujourd'hui. Je ne veux pas faire la morale à personne, mais je veux que vous compreniez ce qui est écrit là pour être capable d'en sauver un autre. Le fait qu'il n'y a pas de frais à payer, moi, je ne charge pas une scène. Jamais je vais avoir d'argent de ça. Je J'ai pas besoin d'argent pour ça. Je veux que le plus de monde possible puisse le comprendre. Personne à flatter, aucune remontrance à subir, que vous le faites ou pas, c'est votre affaire. T'sais. Moi, je n'irai pas vous dire, ben, t'étais pas là d'autre soir, t'aurais dû être là. Non, c'est votre affaire, c'est vous autres qui jugez ça. Si c'est pas bon pour vous autres, ben, c'est correct. Voilà les conditions que nous avons trouvées les plus efficaces. Nombreux sont ceux qui ont pris leur grabat et se sont mis à marcher après avoir fait une telle démarche. Après avoir suivi l'étude du gros livre, moi, j'ai fait avec mon parrain la première fois, d'un à un à la table, chaque paragraphe, chaque. J'ai pris mon grabat puis j'ai marché parce que j'avais bu pendant 30 ans de temps puis j'ai pas bu après ça parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Prendre notre grabat, bien, ça vient de la Bible. Il parlait de ça que Jésus faisait des miracles puis les infirmes prenaient le grabat puis ils marchaient. Aucun d'entre nous ne consacre tout son temps à ce travail et nous ne croyons pas que nous serions plus efficace si nous le faisons. Ce n'est pas un travail qu'on fait 24 heures par jour. Moi, j'ai l'opportunité de ne pas travailler et puis de ne pas avoir besoin d'argent pour vivre. Fait que je peux dépenser beaucoup de temps. Moi, je le dis à tout le monde, je donne mon téléphone à tout le monde, je dis, ça ne marche pas, là. 3 heures de l'après-midi, 3 heures du matin, appelle-moi. Je suis sincère, puis il y en a qui vont appeler au milieu de la nuit. Puis c'est correct. C'est sûr, je vais dire d'aller coucher, puis appelle-moi, mais tu dégrises demain matin. Puis si tu es à jeun, puis tu vas aller voir, ben, on va se mettre à genoux ensemble, on va faire des prières, ben, on va faire sûr que tu ne retournes pas voir. Nous croyons que d'arrêter de boire n'est que le début. Il est encore plus important de mettre nos principes à l'œuvre dans notre propre foyer, dans nos activités, dans notre travail. Il faut que ça paraisse que j'ai fait des étapes. Il faut que ces étapes-là se reflètent dans mon travail, dans ma famille, avec le gouvernement, avec les polices. Dans tous les domaines de ma vie, il faut que ça paraisse. Nous consacrons tous une grande partie de nos loisirs à fournir les efforts que nous crévons plus loin dans ce livre. Certains ont la chance de pouvoir consacrer presque tout le temps, puis j'en suis un de ceux-là. Je remercie le bon Dieu, moi, de me donner l'opportunité d'être capable d'être à votre service. Peut-être plus que la moyenne du monde ont l'opportunité de faire. Agir comme nous le faisons, il est certain qu'un grand bien résultera de nos efforts, mais le problème aurait été à peine effleuré. T'sais, on peut dire à tout le monde qu'on connaît, essayer de rassembler le plus de monde possible, c'est un faible pourcentage. Puis de tous ceux qu'on va en parler, de tous ceux qui vont venir, encore un faible pourcentage vont se rétablir. Fait que, si on parle, le monde, ils disent, bon, aujourd'hui, les alcooliques, c'est pas comme c'était en 1935. Ben, je m'excuse, c'est la même maladie. C'est la même maladie que c'était, on réagit de la même façon, on agit de la même façon. Le livre est complètement à date. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'autres dépendances. Moi, je les ai toutes, les dépendances. Mais quand je fais l'étude du gros livre avec les alcooliques, ben, je parle d'alcool. Ceux d'entre nous qui vivent dans une grande ville sont ébranlés à l'idée que tout près des centaines tombent dans l'oubli à chaque jour. Des centaines de personnes qui meurent à chaque jour à Montréal, à Québec, dans tous les grands centres. Dans les petits centres, il y en a moins parce qu'il y a moins de monde, mais dans les grands centres, tous les jours, ils montent. Si tu vas dans le bas de la ville, de n'importe quelle grosse ville, tu vas en avoir des centaines d'alcooliques. Plusieurs d'entre eux pourraient se rétablir s'ils avaient la chance que nous avons eue. Hein? Peut-être que je peux aller dans le temps avec un livre parce qu'il y a un des alcooliques chroniques qu'il y a là. Alors, comment leur offrir ce qui nous a été donné si gratuitement? On a donc décidé de publier un livre anonyme qui expliquerait le problème tel que nous le percevons, dans lequel toute notre expérience et toutes nos connaissances seraient mises en contribution. Ce qui est écrit là-dedans, ce n'est pas des histoires. C'est des histoires, mais des histoires vraies, des faits vécus. Ça n'a pas été inventé. Ils n'ont pas conçu une histoire et dit ben, « c'est ça que c'est ». Non, c'est avec des faits vécus. Toute personne aux prises avec un problème d'alcool devrait y trouver un programme d'action efficace. Efficace, ça veut dire que ça marche. Il était nécessaire d'inclure dans notre livre des questions d'ordre médical, psychiatrique, social et religieux. Nous sommes conscients que ces sujets peuvent soulever la controverse. Rien ne nous plairait autant que d'écrire un ouvrage qui contienne ni matière à débat ou dispute. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour atteindre cet objectif. Nous croyons, pour la plupart, que la tolérance et les travers et les points de vue d'autrui et le respect des opinions de chacun sont des attitudes qui permettent d'être d'un plus grand secours aux autres. C'est certain qu'on va rencontrer du monde qui. Le monde, il y en a qui m'aime pas en face, puis dit ben, lui, puis son gros livre, puis lui, puis ses étapes, puis c'est correct. Je donne la main à ces gens-là, je les en veux pas, c'est correct, c'est là qu'ils sont rendus, puis c'est bien correct. Ceux qui veulent entendre plus, bien, écoutez-moi, écoutez ceux qui parlent du gros livre, puis qui parlent dans le gros livre. Notre vie même, parce que nous sommes des ex-buveurs, dépend de notre souci constant des autres et de la façon dont nous pouvons leur venir en aide. Tu sais, quand mon petit nouveau, un renouveau m'a appelé à 7h30 le matin, qui est à moitié chaud encore, hein, tu sais, il dit, ben, je peux-tu te rappeler? Mais j'ai dit, oui, il a pas, tu peux, il faut que tu m'appelles. Il faut que tu m'appelles si tu veux t'en sortir. Puis moi, ça m'aide. Il dit, comment ça? Ben, moi, je le sais que quand je t'entends à 7h30 à moitié chaud le matin, là, moi, j'ai pas le goût d'être là pantoute. Puis si personne ne m'appelle, puis si je fais pas ce que je posais de faire, ben, le prochain à 7h30 le matin qui va appeler, ça va être moi. Fait que je ne veux pas aller là. Fait que je te remercie de m'appeler, puis je te remercie de me dire que ça ne va pas bien, puis on va le faire ensemble. On s'est mis à genoux ensemble, puis on a demandé. On l'a fait hier soir, puis on l'a vu à la nuit. J'ai dit à matin, c'est toi qui vas faire la prière. On va se mettre à genoux ensemble, c'est toi qui vas faire la prière. Je vais être avec toi. On l'a fait. J'espère qu'il ne boit plus. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un matin. Il devrait m'appeler à soir ou demain matin, espérant qu'il ne boit pas. Peut-être demandez-vous déjà comment nous sommes arrivés à nous rendre malades à ce point en buvant. T'sais, comment que ça, c'est dur à comprendre comment on peut boire assez et se rendre malade sans s'en rendre compte. Sans doute, aimez-vous savoir pourquoi et comment, en dépit de l'avis contraire des experts en matière, nous sommes tirés d'une condition physique et mentale apparemment désespérée. T'sais, avant que le gros livre existe, Bill, c'est pour ça qu'il nous écrit. Il dit, peut-être demander pourquoi, en dépit de l'opinion contraire, l'opinion des psychiatres les plus grands au monde, on n'a pas pu nous rendre sobres. Comment qu'on a fait pour se tirer d'une maladie physique et mentale désespérée? Je ne sais pas dans quel état vous essayez d'arriver à l'alcoolique anonyme, mais moi, j'étais dans un état de corps et d'esprit totalement désespéré, puis je ne le savais même pas. Si vous êtes alcoolique et que vous voulez vous en sortir, il se peut que déjà, vous soyez en train de vous demander « Que dois-je faire? Hein? » On lit ça qu'un nouveau, il a demandé « Comment je peux faire ça? » Mais ça se peut-tu? Je ne sais pas. L'objectif de ce livre est d'apporter des réponses précises à ces genres de questions. À travers les 100 premières pages, on va avoir des réponses précise à chacun des problèmes qu'on a dans notre vie. Toutefois, avant de vous dire ce que nous avons fait et d'entrer dans des explications détaillées, il nous semble indiqué de vous faire connaître succinctement notre point de vue sur certaines choses. Avant d'aller dans le détail, on va vous parler un peu en abrégé ce qui s'est passé, comment que ça allait arriver. Après ça, on va aller dans le détail. Combien de fois nous a-t-on pas dit « Moi, je veux vin cesser de boire. Moi, je peux cesser de boire quand je veux. Pourquoi pas lui? Si tu ne peux pas boire raisonnablement, tu feras mieux d'arrêter. » Celui-là est incapable de se maîtriser quand il s'agit d'alcool. Pourquoi n'essaies-tu pas la bière ou le vin? Laisse les boissons alcoolisées. Il manque sûrement de volonté. Il pourrait cesser s'il voulait. Elle est tellement gentille avec lui que par égard pour elle, devait cesser de boire. Les médecins lui ont dit qu'il mourrait s'il continuait à boire, puis pourtant, il est sous comme un œuf. Ce sont là des lieux communs que nous entendons souvent. Moi, je le sais que je me suis fait dire ça par des amis puis par de la famille. Tu sais. Les lieux communs que nous entendons. Ils dénotent d'un monde d'ignorance et de malentendus. Sont le fait des personnes qui réagissent fort différemment de nous face à l'alcool. Nos parents, nos amis, ils ne comprennent pas ça parce que ce n'est pas des alcooliques. Ils réagissent totalement différemment de nous autres. Ils peuvent prendre un verre puis deux verres, puis parce qu'eux autres le peuvent, ils ne peuvent pas comprendre que nous autres, on ne peut pas arrêter. C'est ça qui est notre maladie. C'est pour ça que c'est important de lire le gros livre, de le comprendre, d'être capable de l'expliquer à un autre. On va sauver des millions de personnes si on se met tous ensemble pour faire ça. Le buveur modéré abandonne facilement l'alcool s'il a une bonne raison de le faire. Dans son cas, c'est cette boire, il ne pose pas un problème. Peut-être qu'il prend une brosse de temps en temps, puis là, le docteur a averti ou sa femme il a dit, si tu bois de même, moi, je ne resterai pas là. Puis, il a dit, correct, il faut arrêter, puis ce n'est pas un problème. Il y a également le cas du gros buveur. Il peut avoir développé cette habitude au point d'en avoir affecté progressivement sa santé physique et mentale. Sa vie peut même en être écourtée. Cependant, s'il est motivé par une raison suffisamment sérieuse comme une santé défaillante, une nouvelle relation amoureuse ou un changement d'environnement ou encore une sévère mise en garde de son médecin, ce buveur parviendra sinon à couper l'alcool complètement ou du moins à modérer sa consommation, même s'il trouve ça difficile et contraignant, il pourrait même avoir besoin d'une assistance médicale. C'est pour ça que les docteurs, comme le docteur Silkworth, qui a dit, les cas comme vous autres, les alcooliques chroniques, ça, c'est un gros buveur, c'est pas un alcoolique chronique. S'il va voir un psychiatre, puis il écoute le psychiatre, probablement qu'il va s'en sortir. Mais un alcoolique chronique comme nous autres, ça marche pas. Les psychiatres, ils l'ont essayé depuis que le monde, depuis 2000 ans, qu'ils disent depuis que le monde a commencé à faire du vin, ils ont essayé ça, puis ça marche pas. Mais que dire du véritable alcoolique? Que dire de Hubal? Il a d'abord pu être un buveur modéré. Il peut par la suite devenir ou non un gros buveur. Mais vient un temps où dès qu'il commence à boire, il ne peut plus s'arrêter. C'est mon expérience. On dirait qu'ils m'ont suivi et ont écrit ce que j'ai fait. Son comportement vous rend perplexe, en particulier son manque de contrôle. Il y a des gestes absurdes, inexplicables et tragiques lorsqu'ils boivent. Ceux qui m'ont connu en boisson, là, ils vont être capables de décrire dans leur tête exactement qu'est-ce que j'ai fait. Des gestes absurdes, inexplicables et tragiques lorsqu'ils boivent. Puis le lendemain, on compte ça, puis je ne le crée même pas moi-même parce que je peux apporter la carte. Et des affaires, un manque de contrôle total dans tous les domaines. Il fait alors penser au Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un film qui s'est passé, je pense, dans les années 1800. Puis c'est un type qui avait inventé un liquide que quand il prenait ça, il donnait une personne totalement différente. Puis là, il nous compare à ça, ce film-là, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il est rarement à moitié ivre. Il est plutôt en tout temps plus ou moins ivre à en perdre la raison. Quand il boit, son comportement n'est pas normal. Il parle de Hubert encore ici. Son comportement n'est pas normal. C'est peut-être la personne la plus agréable au monde, mais une journée à boire la rendra insécrable et même dangereusement antisociale. Puis il a le don de s'enivrer quand précisément il ne faudrait pas, particulièrement lorsqu'il va prendre une décision importante ou tenir un engagement. Je vous l'ai dit, à 17 ans, 18 ans, j'étais à Montréal, un examen de fin d'année. C'était important pour que je gradue. Je n'ai pas gradué, j'ai manqué la. Parce que j'étais trop sous la veille. Tu sais? Il parle de moi partout dans ce gros livre-là. Souvent, c'est un être parfaitement santé et bien équilibré en tout. Je suis devenu un ingénieur industriel pour Canadien de Marconi. C'est pas pour acheter un 2 de pique, mais donne-moi pas un verre de boisson. L'ingénieur, il est parti bien raide. Sauf en ce qui concerne l'alcool. Sur ce point, il est incroyablement égoïste et malhonnête. Souvent aussi, c'est un sujet talentueux et doué qui possède des aptitudes particulières et qui a devant lui une carrière prometteuse. Il utilise ses talents pour assurer à lui-même et aux siens un avenir brillant, puis une série de cuites insensées. Il détruit tout ce qui a été édifié. On a parlé la semaine passée de 400 exemples de ces gens-là. On croyait que dans l'état d'ivresse où il se trouve, lorsqu'il se couche, il devrait dormir au moins 12 heures d'affilée. Pourtant, dès son réveil le lendemain matin, il cherche avidement la bouteille qu'il a égarée la veille. Lorsqu'il en a les moyens, il dissimule des bouteilles dans toute la maison de crainte qu'on lui en prenne ses provisions pour les jeter à l'évier. À mesure que les choses s'aggravent, il se tourne progressivement vers des sédatifs puissants qu'il mêle à l'alcool pour calmer et être en état de se rendre à son travail. On va voir les docteurs, puis on ne lui compte pas la vérité. Fait qu'il nous donne des pilules, nous donne des calmants, nous donne des choses pour essayer de corriger notre problème. On ne lui a pas dit qu'on est alcoolique, on n'a pas dit qu'on avait symptômes d'alcool. Demandez comment tu bois, comme tout le monde avec qui je me tiens avec les choulons. Fait qu'il n'a pas pu nous donner des sédatifs, il nous donne n'importe quoi pour essayer de nous guérir. Le pauvre docteur fait son mieux avec ce que j'ai dit. Bien un jour où il est incapable de continuer, il reste chez lui, il s'enivre de nouveau. Peut-être ira-t-il voir un médecin qui donne de la morphine ou un autre calmant pour qu'il s'en remette. Puis, c'est le début des visites à l'hôpital ou à la clinique. Quand on a lu l'histoire de Bill, on a vu ça. Bill s'est rendu à la clinique au moins 4 fois avant d'avoir son réveil spirituel. Ce portrait que nous venons de brosser du véritable alcoolique est loin d'être complet. Les comportements varient d'un sujet à l'autre. Cependant, il en présente une description générale. Quand j'ai lu l'histoire de Bill, je n'ai pas pu m'associer avec tout ce que Bill a fait, mais une grande partie des choses qu'il a faites, j'ai été capable de m'associer à ça puis voir que moi et tout, j'ai cette maladie-là. Pourquoi se conduit-il ainsi? Si des centaines d'expériences ont prouvé qu'un seul verre peut déclencher la débâcle, avec toutes les souffrances et l'humiliation qu'il entraîne, pourquoi le prend-il? C'est le monde qui me voit y aller, dit « Ah, Bernard, Cuba, comment ça, tu retournes voir, gars, je viens de perdre de faire ton char, d'envoyer 13% à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôtel, voyons donc, quoi qui ne marche pas en haut, c'est là? » Pourquoi peut-il pas s'abstenir de boire? Qu'en est-il devenu du bon sens et de la volonté qu'il démontre parfois dans d'autres domaines? Moi, j'étais un homme d'affaires, j'ai réussi bien en affaires. Mais donne-moi pas un verre de boisson, tu viens de me parler, je passe à la brosse, moi, puis j'oublie tout ce qui se passe. Peut-être n'y aura-t-il jamais de réponse définitive à ces questions. Les opinions sont grandement partagées quant aux facteurs qui expliquent pourquoi l'alcoolique réagit différemment des gens normaux. On ne peut encore expliquer pourquoi. Passé un certain stade, il n'y a presque rien qu'on puisse faire pour lui. Cela demeure un énigme. On a parlé la semaine passée, là, à page 38, on a parlé. Là, il est peu probable que d'autres personnes, des jeunes, peuvent arrêter, peuvent sentir à cause d'une déformation d'esprit particulièrement déjà acquise. J'ai une déformation d'esprit. Déjà à 13 ans, moi, j'avais une déformation d'esprit que je ne pouvais pas me débarrasser, que je ne le savais pas. Puis à 17 ans, j'ai répété cette expérience-là. Puis à 23 ans, j'avais une déformation d'esprit, puis je ne le savais pas. Puis à 43 ans, j'arrivais là, puis ils m'ont dit, Hubal, tu as une déformation d'esprit, tu ne peux pas prendre ton premier verre. S'il y a de quoi de pas correct dans ta tête, Hubal, c'est juste ça la réponse. Puis il va falloir te suivre ce qu'on a à te suggérer ici pour pouvoir t'en sortir. Mais tu ne pourras plus jamais boire, tu ne pourras jamais prendre la première bière parce que tu vas revenir en même place que tu étais avant, aussi vite que ça. Peut-être qu'il n'y a jamais de réponse définitive. Les opinions sont grandement partagées tant qu'aux facteurs qui expliquent pourquoi l'alcoolique réagit différent des gens normaux. On ne peut encore expliquer pourquoi, à passer un certain âge, il n'y a presque rien qu'on peut dire. Cela demeure un énigme. Nous savons que l'alcoolique, qui s'abstient de boire, et cette abstinence peut durer des mois, voire des années, un comportement semblable à celui d'un homme normal. Moi, j'arrêtais de boire des périodes, deux semaines, une semaine, un mois, puis je ne le savais même pas, je retourne à boire parce que je ne savais pas ce qui se passait. Puis dans ce temps-là, j'avais un comportement normal. Moi, le monde qui me voyageait, je ne sautais pas sur les tables, je ne me déshabillais pas devant le monde, puis je ne faisais pas toutes sortes de stupidités. J'agissais comme une personne normale. Pourtant, j'étais un alcoolique pareil. Nous sommes aussi certains que s'il touche à l'alcool de nouveau, il se produit un phénomène physique et mental qui rend virtuellement incapable d'arrêter. Un phénomène, c'est un miracle. Un phénomène, c'est de quoi de bien qu'on peut pas, on peut pas virer de bord. C'est un phénomène, c'est de quoi de grave, physique et mental, qui le rend virtuellement incapable de s'arrêter. Tous les alcooliques qui ont fait cette expérience ne pourront que la confirmer. Et moi, je peux la confirmer. Puis quand j'ai lu ça avec mon parrain, j'ai confirmé que oui, c'est vraiment, c'est exact. Il parle de moi. Les observations précédentes resteraient vaines et purement théoriques si notre homme ne perdra jamais ce premier verre qui déclenche le cycle infernal. C'est certain que je ne le bois plus jamais, mais ça n'arrivera pas parce que l'obsession devient trop forte et elle me ramène à boire encore. Ce qui nous amène à croire que le problème est d'ordre psychique plutôt que physique. Psychique, ça vient de la tête. L'obsession, c'est dans la tête que ça se passe. Puis physique, c'est l'allergie. Après, j'ai commencé à boire, je ne peux plus arrêter. C'est physique. Si on demande pourquoi il a commencé à prendre cette dernière cuite, il est probable qu'il a toutes sortes d'excuses. Bien que certains arguments ou justifications peuvent être plausibles, aucun ne fait le poids devant les ravages d'une cuite. Peut-être des fois, il y a des niveaux qui viennent s'asseoir à ma table et ils demandent, mais pourquoi tu retournes boire? Ah, ben ma blonde m'a laissé. Ah, ben mon père est mort. Il dit non. Il dit oui. J'ai dit non, c'est pas ça. La seule raison, c'est parce que t'es un alcoolique. T'es allergique à l'alcool. Aussitôt que tu touches une goutte d'alcool, tu te saoules. Puis tu le sais pas, ça t'a pas reconnu ça. Fait que tu penses tout le temps que tu vas être correct la prochaine fois. Les raisons évoquées par l'alcoolique s'apparentent à celles d'un homme qui se frappait le crâne à coups de marteau pour pas sentir son mal de tête. Si vous faites observer un alcoolique l'absurdité de son raisonnement, il s'en moquerait ou s'en irait trop, ou il refuserait de parler. Il pourrait me dire n'importe quoi, moi je ne le savais pas, puis je pensais que c'était tout bien correct. Pourquoi l'alcoolique répond? Parfois, l'alcoolique répondra franchement. Cependant, si étrange que ça peut sembler, il ne sait pas plus que vous ce qui l'a poussé à prendre ce premier verre. Certains buveurs ont des excuses, donc ils sont assez contents. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils agissent de la sorte. Une fois qu'ils sont dominés par ce mal, ils deviennent confus. D'une part, ils sont obsédés par l'idée qu'un jour, ils réussiront à s'en sortir. D'autre part, ils se doutent bien que la partie est perdue. Tu vois, tu as le goût de boire assez fort, puis tu t'ostines avec toi-même, puis tellement tu y vois, c'est peine perdue, je ne pourrais pas arrêter. La vérité est tragique et que s'il s'agit, donc peu de gens sont capables de mesurer à quel point c'est vrai. La famille et les amis de l'alcoolique sentent vaguement que celui-ci est anormal, mais chacun attendra le jour où il sortira de sa léthargie. Il retrouvera sa force de volonté. Nos amis proches, nos parents, ils pensent qu'on donne une méchante pause. Une méchante pause, tu vas être correct. Arrête de boire, tu vas être correct. Juste une méchante pause. Ce n'est pas une méchante pause, c'est une maladie. Une maladie chronique. Ce n'est pas de ma faute, mais j'ai ça. Je ne le savais pas, puis ma famille ne le savait pas, puis mes amis ne le savaient pas non plus. La vérité est tragique. Et s'il s'agit d'un véritable alcoolique, ce jour ne peut jamais arriver. Quel jour? Le jour qu'il pense qu'on va sortir de notre léthargie. Ça n'arrivera pas. C'est un alcoolique, c'est impossible. Il a perdu tout contrôle. Tout alcoolique atteint le stade où même la plus grande volonté de cesser de boire n'est plus d'aucun secours. Dans presque tous les cas, le moment tragique survient bien avant qu'on l'ait soupçonné. Bien avant qu'on le sache qu'on ne peut plus arrêter, on ne pouvait pas arrêter. Le paragraphe qui suit est très important. Nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d'entre nous alcooliques, pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l'alcool. Notre prétendue volonté n'existe à peu près plus. Parfois, nous sommes incapables de nous rappeler suffisamment les souffrances et les humiliations subies un mois ou une semaine plus tôt. Nous sommes sans défense devant le premier verre. Excusez-moi une seconde. Il vient de vous expliquer pourquoi je suis sans défense devant le premier verre. Pourquoi? Parce que ma tête, elle ne peut pas se rappeler les souffrances, les humiliations subies auparavant. Il nous dit de là une semaine ou un mois. Dans mon cas, ça peut être dans la même semaine. Il y a deux, trois brasses dans la même semaine. Pourquoi? Parce que ma tête, elle me disait, comme ils ont dit dans l'autre de la page 26, là, c'est des centaines d'expériences, Hubert, ils t'ont prouvé que ça ne marchera pas. Pourquoi tu y retournes encore? Pourquoi? Parce que ma tête, elle me dit, Hubert, à soir, ça ne fera pas ce que ça a fait les autres fois. Tu vas être correct à soir. Mais rendu à ce stage-là, mon parrain m'a fait écrire une page de souffrance et d'humiliation que j'avais subie ou fait subir à mes proches. Puis j'ai montré la feuille, il a dit ça, il a dit oui, c'est tout le pire qui t'est arrivé. J'ai dit oui. Mais il dit, garde une copie dans tes poches. Puis le jour que ta tête, elle va dire que c'était pas si pire que ça, va relire ta page. Parce qu'il dit, si tu retournes voir ce que tu as écrit là, c'est rien. Ça va devenir pire que ça encore. Fait que tiens une page dans tes poches pour être certain que même ta tête va te compter des menteries, mais que tu vas être capable d'avoir une défense contre le premier verre. Dans l'eau de la page 28, ils nous disent les conséquences presque certaines qu'un seul verre va entraîner ne viennent pas d'aider dans le but de nous dissuader. Si l'obsession me poigne, moi que j'ai le goût de boire, ma tête, elle ne peut pas se rappeler les souffrances, les humiliations que j'ai subies ou faites subir. C'est pour ça qu'il faut que je sorte ma feuille soit propre. Puis quand ma tête, elle me dit, Hubert, ça ne fera pas ce que ça a fait les 100 autres fois, bien, je vais aller lire ça, puis je vais voir que oui, les 99 autres fois, ça a fait ça. Fait qu'à soir, c'est la 100e fois. Les gros chances, la même chose va se produire. Puis il nous dit, si ces pensées-là nous arrivent, peut-être qu'on ne devra pas. Ils sont flous puis vite chassés par cette idée tenace que cette fois, on va se comporter comme du monde. À soir, Hubert, tu vas être correct. Tu peux pas prendre deux, trois drinks avec tes chums, ça va être fun. Tu vas être fun, Hubert, ça va être beau à soir. Vas-y, mon chum, c'est la 100e fois. Ça va être parfait à soir. Puis qu'est-ce qu'on fait? On y va, puis ça marche pas. Parce que cette idée tenace que nous allons comprendre. Nos mécanismes de défense sont totalement mis en échec comme celui qui nous retient de mettre la main sur un poêle brûlant. Tu sais, quand j'ai des nouveaux qui viennent ici, là, quand on est rendu à ce stage-là, mon poêle n'est pas loin, là, je vais allumer le feu. Puis quand le poêle est bien rouge, là, je dis au nouveau, va te mettre la main sur le poêle. Puis il ne grouille pas, puis il me regarde. J'ai dit, va te mettre la main sur le poêle. Puis il ne grouille pas. J'ai dit, pourquoi tu n'y vas pas? Il dit, ça va brûler. Mais comment tu fais pour le savoir? Tu n'es jamais venu chez nous. Tu n'as jamais touché à mon poêle. Comment tu fais pour savoir que ça va brûler? Mais la seule raison qu'on le sait, c'est parce qu'on s'est déjà brûlé dans le passé. Puis quand ça arrive, l'idée de se faire brûler, notre tête, elle ne compte pas demander. Ma tête, elle me dit, Hubert, il ne va pas toucher au poêle, il est rouge. Va pas toucher, tu vas te brûler. Et 73 ans, puis ma tête, elle me dit, je me suis brûlé peut-être à 3 ou 4 ans. Puis ma tête, elle me dit encore, Hubert, ça va brûler, j'ai pas moins d'y toucher. Mais quand ça arrive, la boisson, ma tête a dit, Hubert, ça ne fera pas ce que ça a fait les 100 autres fois. Ben, à soir, tu vas être correct. Tu peux y aller toucher au poêle, puis ça ne te brûlera pas. C'est ça que ça vient dire. Cette fois, je ne me brûlerai pas. Et voici comment je vais me prendre. Comment je vais me prendre pour me brûler sur le poêle qui est rouge, se convainc l'alcoolé, le plus naturellement du monde. Parfois aussi, il ne réfléchit pas du tout. Combien de fois après un premier verre pris distraitement, nous sommes-nous demandés au troisième ou quatrième, pour l'amour de Dieu, comment bien pu commencer, puis nous sommes dit tout de suite, j'arrêterai après le sixième ou encore de toute façon, à quoi bon essayer. Mais moi, j'étais le genre d'alcoolique qui s'attendait. Je ne buvais pas, mais je me donnais un beurre. À un moment donné, il arrive un gars, ça fait un mois, tu n'as pas vu. Il arrive, ah, Hubert, moi, ça va, mais t'envoies un drink. Ben non, je ne bois plus. Ben voyons, non, j'ai un drink, Hubert. Je ne connais pas de la maladie, je le prends. Le lendemain, je me réveille, je ne sais même pas ce que je suis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, c'est ça, un alcoolique, c'est ça, la maladie. Lorsque cette manière de penser s'est bien installée dans l'esprit du buveur alcoolique, tout secours humain est déjà probablement devenu inutile et le malade en mourra ou perdra totalement la raison, à moins qu'il soit enfermé avant. Puis même si on l'enferme avant, quand il devient normal, il le relâche. Il n'y a pas de place qu'il va garder un alcoolique quand il est sobre. Il va le garder là longtemps parce qu'il agit normalement après qu'il est sobre. Ces faits choquants et brutaux ont été confirmés par une foule d'alcooliques au cours de l'histoire. Cependant, dû été la grâce de Dieu, nous compterions des milliers d'autres exemples de ce genre. Ça n'a pas été de la grâce de Dieu que Bill et Bob se sont rencontrés et ont formé le mouvement des alcooliques anonymes. On sera des millions de plus. Moi, je serai mort, ça fait longtemps que je suis sûr, parce que dans ma parenté, du côté de mon père et ma mère, les oncles et les tantes sont morts d'alcoolisme et se sont pas rendus à 77 ans, soit à 73 ans. Il y a tant de buveurs qui veulent arrêter de boire, mais qu'ils ne peuvent pas. Mais on a une solution. La plupart d'entre nous n'aimons pas. Ils nous décrivent pourquoi on ne fait pas ce qu'on est supposé de faire. Hein? Mais la plupart d'entre nous, on n'aime pas l'idée de faire notre inventaire. Ben non, ça prend du temps à faire l'inventaire. Qui va aller faire ça? Hein? De marcher sur notre amour propre, hein? Aller faire des amendes honorables, d'admettre nos défauts. Toute chose nécessaire pour que le processus de rétablissement réussisse pleinement. Pas que je sois obligé de dire, ben, j'ai 20 ans, je ne dois pas être si pire que ça, qu'on fait mes étapes, mais je ne suis pas si pire que ça, parce que j'ai pas tu n'as pas bu, mais tu n'es pas joyeux, heureux et libre, sans consommer ou sans penser à consommer. Cependant, nous avons vu que cela avait réellement marché pour d'autres, et nous en étions venus à croire que la vie telle que nous la vivions était futile et sans espoir. Et futile et sans espoir, il arrive à jamais rien. Tu te bois, tu te saoules, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi, lorsque nous avons été abordés par ceux qui avaient réglé leur problème d'alcool, il ne restait rien d'autre à faire que de prendre le simple coffre d'outils spirituels qui nous était offert. C'est quoi ce coffre d'outils spirituels-là? C'est nos 12 étapes. Si on fait les 12 étapes avec quelqu'un qui les a déjà faites, c'est certain qu'on va se rétablir d'un état de corps et d'esprit désespéré. Mais il faut le faire. On ne peut pas le faire pour les autres. Et souvent, je le dis au nouveau, j'aimerais ça être capable de le faire pour toi. Tu sais, mon gars qui est appelé à 7h30 le matin, il dit, tu sais, si je suis capable de le faire pour toi, c'est sûr que je le ferai. Mais je ne peux pas. Il faut que c'est toi qui le fasse. Tu sais, ce n'est pas pour ceux qui n'ont besoin, pas pour ceux qui le veulent. C'est juste pour ceux qui le font. Nous avons découvert un coin de paradis et nous avons été propulsés dans la 4e dimension de l'existence que jamais nous n'aurions pu nous imaginer. C'est pour ça que quand moi je m'introduis, je m'appelle Hubert, je suis un alcoolique, puis je suis content de le savoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai connu un mode de vie qui s'avère de mieux en mieux, de jour en jour. Puis Bill, il nous parle de la 4e dimension. On va aller lire à page 10 dans l'histoire de Bill, comment il nous décrit ça, la 4e dimension d'existence. Bill, il nous dit, j'allais découvrir le bonheur et la paix, et une raison d'être grâce à un mode de vie qui se révèle être incroyablement plus merveilleux de jour en jour. C'est ça qui va se passer dans notre vie. Si on peut comprendre les étapes et aider les autres à les faire, bien c'est ça qu'on va avoir. Ça veut-tu dire que ça va aller 100% tout le temps? Non. Mais même quand ça va aller mal, même que la vie n'est pas fair avec moi, je vais être capable d'être joyeux, heureux et libre sans consommer. C'est ça tout le but de ça, c'est d'être capable de vivre avec tout ce que la vie peut nous apporter sans les consommer. C'est un fait évident et rien de moins. Nous avons fait une expérience spirituelle profonde et réelle qui a complètement transformé notre attitude devant la vie. Donc, à faire les étapes, on va avoir cette expérience spirituelle-là. On peut aller lire à page 633 là, dans notre gros livre. On va lire juste le premier paragraphe là, ça, qui nous décrive c'est quoi cette expérience spirituelle-là. À page 633, dans le paragraphe du haut, là, les expressions expérience spirituelle et réveil spirituel sont souvent utilisées dans ce livre. Lequel, si on le lit attentivement, si on lit ce livre-là attentivement, va nous révéler le changement de personnalité qui suffit à entraîner le rétablissement de l'alcoolique. Si on suit ça, ça va nous donner un changement de personnalité, quelque chose dans ma tête qui va changer drastiquement, qui va suffire à entraîner le rétablissement de l'alcoolique. Ça veut dire que j'aurais plus ce désir de boire-là aussi fort que c'était avant. Je vais être capable de vivre ma vie sans les boire à cause de cette 4e dimension-là, de ce réveil spirituel-là. C'est un fait évident, rien de moins. Nous avons fait une expérience spirituelle profonde et réelle qui a complètement transformé notre attitude devant la vie, qui a transformé notre attitude envers les autres, qui a transformé notre attitude envers Dieu, qui a transformé notre attitude envers tout l'univers. Notre vie est maintenant centrée sur la certitude absolue que le Créateur est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Bill utilise peut-être 20 mots différents pour décrire Dieu. Là, il utilise le mot Créateur, puissance suprême, l'amour, il peut décrire toutes sortes de mots. C'est toujours Dieu de notre compréhension qui est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Il a commencé à faire pour nous des choses que nous n'aurons jamais pu réussir nous-mêmes. Moi, j'ai essayé de boire. J'ai essayé d'arrêter de boire toute ma vie, je n'ai pas été capable. Il n'y a pas un être humain qui a été capable de m'arrêter. Mes enfants, ma femme, mon travail, le juge, les avocats, les polices, personne n'a été capable de m'arrêter. Mais quand j'ai connu un être suprême à travers des alcooliques anonymes, là seulement j'ai été capable d'arrêter de boire puis de rester arrêté. Fait que si vous êtes un alcoolique aussi gravement atteint que nous l'étions, nous croyons qu'il n'y a pas de demi-mesure si vous voulez régler votre problème. Il faut que je sois prêt à tout faire si je veux m'en sortir. Nous étions au point où la vie devenait impossible à vivre. Nous étions parvenus au stade où tout être humain est inutile. Il ne restait que deux solutions. C'est quoi les deux choix que j'ai? Quand on parle de choix d'en haut, quand on parle de liberté dans le haut, bien c'est ça la liberté que j'ai. Liberté de me rétablir ou pas me rétablir. C'est que deux solutions. Continuer jusqu'au bout en faisant taire du mieux que nous aurons pu la conscience que nous avions de notre intolérable situation ou accepter un aide spirituelle. C'est quoi le choix? Joyeux, heureux, élève, la prison, la folie et la mort. Ah bien, je vais y penser, là, je ne sais pas. Hein? C'est ça que ça vient de nous dire. La folie, la prison ou la mort, joyeux, heureux ou libre, puis il faut que j'y pense. Je ne peux pas donner une réponse tout de suite. Nous avons choisi, nous, c'est les 100 premiers membres qui ont écrit le livre, nous avons choisi la deuxième solution parce que nous désirions sincèrement nous rétablir et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires. C'est ça, les 100 premiers membres. Ils ont décidé de prendre la deuxième solution, la solution spirituelle, parce qu'ils veulent réellement se rétablir, puis ils sont prêts à fournir les efforts nécessaires. C'est quoi les efforts nécessaires? C'est différent pour tout le monde. Mes efforts à moi sont différents de celles de PO ou de celles de France ou de n'importe qui d'autre. Mais on a des efforts à faire pour en venir à ce point-là. Ça ne se fait pas tout seul. Et comme je disais tout le temps, moi, c'est pas à me parler que tu vas apprendre ça. C'est pas à me parler, c'est à le mettre en action. Voici l'histoire d'un homme d'affaires américain qui est bien connu pour son talent, son jugement et sa forte personnalité, errait d'une clinique à l'autre. On a parlé avant, c'est Roland Hazard qui avait été fait soigner par le Dr. Young. Après avoir consulté les plus grands psychiatres des États-Unis, il est allé en Europe pour rencontrer un médecin réputé, Dr. Carl Jung, psychiatre, qui l'a traité. Bien que les expériences passées de cet homme d'affaires l'aient rendu sceptique, il montrait une confiance peu commune à la fin de son traitement. Il allait passer un an avec le docteur, puis il avait l'air correct quand il est parti, il avait l'air en forme, puis le docteur pensait bien qu'il était pour être correct. Sa forme physique et mentale était exceptionnellement bonne. Surtout, croyait-il, il avait acquis une telle connaissance des mécanismes de son esprit et de ses moindres ressorts, qu'il était impossible qu'il puisse rejeter. Il a dit, là, j'ai compris le docteur, je le sais, lâche-moi là, si tu vois, ça va bien aller, je sais que ça ne peut pas manquer. Néanmoins, peu de temps après, il était de nouveau ivre. Le plus déconcertant était qu'il ne trouvait aucune explication satisfaisante à sa rechute. Il est revenu au Canada, puis deux semaines après, il était sûr encore, puis il a rappelé au docteur, il dit, tabarouette, je sais pas ce qui se passe. Je ne veux plus boire, puis je bois pareil. Et l'obsession devenait tellement forte. On voit ce que le docteur lui a dit. Il est retourné voir le médecin, c'est le médecin qu'il admirait grandement, qui a demandé de but en blanc, il a dit clairement pourquoi il ne pouvait pas se rétablir. Il désirait par-dessus tout devenir maître de lui-même. Il semblait plutôt rationnel et bien équilibré face à d'autres problèmes. Pourtant, il ne parvenait pas à maîtriser devant l'alcool. Comment expliquer ça? Demandez ça au docteur. Il a supplié le médecin de lui dire toute la vérité, puis il l'a entendu. Selon le médecin, son cas était absolument désespéré. Chronique, c'est ça, désespéré, il n'y a rien à faire. Jamais il ne retrouverait sa place dans la société et s'il tenait à vivre longtemps, il allait devoir s'enfermer ou avoir recours au service d'un garde du corps. Ainsi parlait un médecin renommé. Mais cet homme vit encore et de plus, il est libre. Il n'est pas enfermé et il n'a pas besoin d'un garde du corps. Sur la planète, il peut aller sans danger partout où vont les hommes libres, à la condition qu'il accepte d'adopter une certaine conduite toute simple. Juste ces 12 étapes-là, dans le temps, c'était les 6 principes verbaux du groupe d'Oxford. Certains parmi les acolytes qui lisent ce livre peuvent croire qu'ils sont encore capables de s'en sortir sans une aide spirituelle. Voici pour nous la suite de la conversation entre notre ami et son médecin. Vous avez l'état d'esprit d'un alcoolique chronique, a déclaré le médecin. À ma connaissance, aucune personne atteinte comme vous l'êtes ne s'est jamais rétablie. Notre ami a eu l'impression que les portes de l'enfer se renfermaient brusquement sur lui. Y a-t-il pas d'exception? Demanda-t-il au médecin. Oui, le médecin répondit. Il y en a. Des exceptions à des cas comme les vôtres existent depuis les temps anciens. De temps à autre, les alcooliques ont parfois vécu ce qu'on appelle une expérience spirituelle vitale. Vitale, ça veut dire que ta vie dépend de ça. Le docteur dit, je considère ces événements comme des phénomènes, des miracles. Okay? On pourrait les assimiler à des grands transferts et réaménagements d'ordre émotionnel. Les idées, les émotions et les attitudes qui dictaient jadis cet homme, leur conduite, sont soudainement mises de côté. Sa façon de penser a été mise de côté complètement. Puis ils deviennent dominés par un ensemble de concepts et de principes entièrement nouveaux. C'est comme si on avait vidé son cerveau et rempli son niveau d'idées neuves. C'est ça que le docteur a expliqué. Ça se passe des fois, puis il ne savait pas comment le donner. Puis il dit, j'ai entendu parler, j'ai déjà entendu dire ça. J'ai tenté de provoquer ce réaménagement émotionnel en vous. Mes méthodes ont réussi avec beaucoup de personnes, mais n'ont jamais donné de résultat dans le cas comme le vôtre. Les alcooliques chroniques, les gros buveurs, ils peuvent les arrêter. Les alcooliques chroniques, il n'a jamais été capable. Ces paroles ont eu pour effet de rassurer un peu notre ami, qui était tout de même, se disait-il, un membre fidèle de l'Église. Ses parents étaient des pasteurs, lui a pensé, OK, je vais retourner à l'Église, puis tout va être bien. On va écouter ce que le docteur lui dit. Cependant, son espoir s'est évanoui lorsque le médecin lui a affirmé qu'en dépit de la qualité de ses convictions religieuses, celle-ci ne pouvait pas, dans son cas, donner lieu à l'expérience spirituelle vitale nécessaire. Il a dit non. Le Dieu que tu as, la conception que tu as du Dieu, que tu retournes dans ta religion, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Il va falloir que tu fasses une conception différente, une conception nouvelle qui va marcher. Parce qu'il dit, il ne pouvait pas, dans son cas, donner lieu à l'expérience spirituelle vitale nécessaire. C'est là qu'il a conseillé d'aller voir Sam Shoemaker avec le groupe d'Oxford, qui avait une approche différente. Voilà dans quelle terrible situation se trouvait notre ami lorsqu'il a vécu l'expérience extraordinaire qui, comme nous l'avons dit, a fait de lui un homme libre. Nous avons, à notre tour, cherché la même issue avec l'énergie désespérée de celui qui se noie. Ce qui semblait d'abord être un mince roseau s'est révélé être la main forte et secourable de Dieu. Une nouvelle vie, ou plutôt un mode de vie, vraiment efficace nous a été offert. Les étapes, c'est ça, le mode de vie. Ce n'est pas d'autre chose. J'entends parler de toutes sortes d'histoires. C'est le mode de vie, j'ai les étapes, j'ai le mode de vie, j'ai tout. Non, c'est tout. Le mode de vie, c'est les étapes, ce n'est pas d'autre chose. Dans son livre « Variété de religions expériences », l'éminent psychologue américain William James exprime une multitude de démarches qui ont mené les hommes à Dieu. Notre intention, ce n'est pas de vous convaincre qui que ce soit qui n'a qu'une seule façon d'acquérir la foi. Et ce que nous avons vu, appris et senti a un sens, nous tous, de quelque race, croyance, couleur, que nous soyons comme des enfants d'un Créateur vivant, avec qui nous pouvons établir une relation faite de simplicité et de compréhension dès que nous sommes prêts et assez honnêtes pour essayer. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, puis ce livre-là, il a été donné, Variété de religion, il a été donné à Bill par Abby, son parrain, parce qu'Abby pensait que ça prenait cette grosse expérience spirituelle-là pour se rétablir. Puis Abby a dit, non, moi, ça ne s'est pas produit de même. C'est pas tout le monde ça se produit de même. Va lire dans ces livres-là, puis tu vas voir différentes personnes qui ont recouvert Dieu de différentes façons. Ceux qui appartiennent à une religion n'y trouveront rien de contraire à leur conviction ou à leur culte. Aucune friction n'existe entre nous sur ces questions. Nous croyons que l'appartenance de nos membres à quelque groupe religieux que ce soit ne nous concerne pas. Pour nous, la pratique religieuse est une affaire entièrement personnel, que chacun doit régler à sa lumière et à ses affiliations passées ou son choix présent. On n'a pas à parler de ce que notre religion, on n'a pas à parler pour ou contre. Dans les salles de haut, on ne parle pas de religion. D'ailleurs, nos membres ne font pas tous partie de groupes religieux, mais la plupart d'entre nous sommes en faveur d'une telle appartenance. Dans le chapitre suivant, nous décrirons l'alcoolique tel que nous le comprenons. Suivez un chapitre destiné aux agnostiques qu'on va lire la semaine prochaine. Nous comptons parmi les membres plusieurs personnes qui jadis étaient de ceux-là. Il est pour le moins étonnant de constater que ce n'est pas un obstacle sérieux à une expérience spirituelle. Même si on ne croit pas en Dieu ou si notre croyance n'est pas déterminée, on peut commencer, puis ils vont nous montrer la semaine prochaine, on va lire, puis c'est assez pour commencer. Plus loin dans le livre, nous expliquons clairement comment nous sommes rétablis. À partir de la page 68, ils vont nous dire exactement, aller jusqu'à la page 100, exactement comment ils se sont rétablis. Viennent ensuite 42 témoignages. 42 histoires en dernier que je recommande fortement au monde de lire. Le monde lise d'autres livres, lise n'importe quoi, puis ne sont pas au courant de ces histoires. Mais toutes ces histoires-là sont à date avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Comment que le monde a fait pour se rétablir, c'est ça qu'ils nous racontent. Chaque alcoolique relate dans ses propres mots, selon son propre point de vue, la façon dont ses amis sont en contact avec Dieu. Les auteurs de ces récits sont représentatifs de nos mondes et donnent une description fidèle de ce qui s'est produit dans leur vie. Nous espérons que ces révélations intimes ne seront pas jugées de mauvais goût. Nous voudrions que nombre d'alcooliques, hommes et femmes, qui ont désespérément besoin d'aide, lisent ces pages et nous croyons que c'est seulement en nous ouvrant complètement et en dévoilant nos problèmes que nous les amenons à dire « Oui, je suis comme eux. Moi aussi, il faut qu'ils aient ce qu'ils ont. » Se révéler, aller trouver des façons qu'on avait à nous autres dans ces 42 témoignages-là pour qu'on puisse établir réellement si je suis un alcoolique ou pas. Fait que sur ça, on va finir avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci tout le monde d'avoir été là. J'apprécie bien ça. Puis comme je dis tout le temps, si vous n'avez pas aimé ça, parlez-en pas. Puis si vous avez aimé ça, ben, amenez-en un autre.